9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS à votre santé, je suis très content de vous retrouver, je suis très content de retrouver Nadia Elbouga. Bonjour Nadia.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Alors là, je ne sais pas si vous êtes tordu sur votre micro, ça va être très bien pour faire de la radio, mais pour faire de la télévision, ça va être plus compliqué, parce qu'on va essayer de vous filmer. Comment ça va Nadia?
Me voilà, suis-je moins tordu maintenant?
Vous êtes, enfin, moins tordu physiquement. Pour le reste, je n'en sais
merci.
Rien.
Ne vous enfoncez pas plus que ça. Sans mauvais jeu de mots.
C'est parce que je ne vous ai pas vu depuis longtemps, Nadia.
Très bien.
C'était bien le ski?
Oui, très bien. Écoutez, l'air frais de la montagne.
Vous a fait du bien?
Voilà, tout à fait.
Bon, les Toulousains vous manquent pas trop?
Eh bien, je les revois dans une semaine.
Notre invité aujourd'hui s'appelle Latifa Benari. Bonjour Latifa.
Bonjour Philippe.
J'ai réalisé que ça faisait 20 ans que je vous connaissais. Vous êtes présidente et fondatrice de l'association L'Ange Bleu qui vient d'avoir 20 ans. Vous êtes une autodidacte de la prévention, vous avez appris sur le tas. Et L'Ange Bleu est en France la seule association qui fait de la prévention du premier passage à l'acte des pédophiles son credo. Voilà. Parlez bien dans votre micro si vous avez quelque chose à dire, Natifa.
C'est vrai qu'on se connaît depuis 20 ans.
Bah ouais,
c'était... C'est l'année où le ministère de la Justice et le ministère de la Santé font le bilan de toutes les mesures qui ont été prises il y a 20 ans. Voilà, et je fais partie de ce programme et je suis ravie parce qu'il y a une reconnaissance aujourd'hui, contrairement à l'époque où on s'était connus, parce que vous avez eu beaucoup de courage et de l'audace pour me présenter à l'époque.
On en parle beaucoup plus qu'il y a 20 ans de la pédophilie. Est-ce que vous avez l'impression que plus on en parle, et mieux on la prend en charge et mieux on la prévient?
Très bonne question, qui revient souvent. C'est vrai qu'on en parle plus, mais ça ne veut pas dire qu'on fait plus de choses. Il y a un gouffre dans la prise en charge. Il y a énormément, enfin lié aux lacunes, puisque j'ai souvent tiré la sonnette d'alarme compte tenu des failles du système. Que j'ai constaté. J'ai été d'ailleurs en 2002 reçue par M. Bernard Stasi qui avait soulevé justement les failles, oui. À l'époque déjà quand il a vu, il a compris ce que je faisais, et il m'avait dit quelque chose de très important que j'ai retenu et que j'ai constaté par la suite, c'est que vous allez être heurté aux failles et aux aberrations des lois.
Du système, oui.
Du système, mais des lois, parce que le système, il est basé sur les lois. Mmh. Et si les législateurs ont des lacunes, ils ne peuvent pas réfléchir l'intérêt des enfants. Parce que l'intérêt des enfants, c'est faire quelque chose en amont, pour agir en amont. Et c'est le meilleur moyen de prévenir le passage à l'acte et donc éviter les victimes.
Alors, il y a des lacunes au niveau du système législatif, mais il y a aussi des lacunes au niveau du système de santé, enfin de la formation notamment des professionnels la thématique, la pédophilie.
Tout à fait, c'est pour ça qu'à l'époque aussi, je parle toujours de l'époque parce que j'étais un peu marginalisée, je suis arrivée comme une intruse et beaucoup de psychiatres ont... perçu mon travail comme une intrusion sur leur terrain. Mais petit à petit, au fil du temps, ils ont compris que j'étais un maillon de la chaîne et que même si je suis autodidacte, le travail du terrain est fondamental puisque j'apporte un complément. Et depuis quelques années, je suis sollicitée dans les universités et surtout le département psychologie pour faire des interventions, pour faire des conférences. Et de plus en plus d'étudiants font appel à moi pour des formations, pour des stages et ils viennent assister comme observateur ou observatrice au groupe de parole.
Comment est-ce que Latifa vous définissez, alors je ne sais pas si vous allez m'accepter le mot, puisqu'à chaque fois on en parle souvent, le mot la pédophilie?
Oui, mais surtout que en ce moment, et toujours, depuis toujours, ce mot est utilisé d'une façon erronée, dans la mesure où la pédophilie est assimilée, même par les médias, aux actes, aux délits. Or, moi-même, je considérais un pédophile comme un agresseur sexuel et un délinquant. Mais le travail du terrain m'a appris autre chose, c'est le travail du terrain avant l'association pendant 30 ans. J'ai travaillé uniquement avec les victimes et les délinquants sexuels. Donc, moi-même, j'assimilais la pédophilie aux actes. Mais lorsque j'ai créé l'association sur le conseil et les encouragements du maire de ma ville, j'ai surtout ciblé les personnes qui ne sont jamais passées à l'acte, dans la mesure où j'ai eu unanimement le sentiment de tous ceux qui sont passés à l'acte, c'est le manque d'écoute, le manque d'aide.
Oui, c'est ce que vous dites, c'est qu'en fait, finalement, la prévention, c'est d'être là avant qu'il y ait justement cette agression, ce passage
cette
à
l'acte. Oui. Mais qui concerne aussi les hétérosexuels. Il y a quand même des femmes qui sont agressées. On ne considère pas tous les hétérosexuels comme des agresseurs potentiels. Donc c'est ce que j'ai appris après la création de l'Ange Bleu. Moi, j'ai ciblé ceux qui ne sont jamais passés à l'acte.
Alors, vous les appelez comment ?
Alors, des agresseurs. D'ailleurs, quand je suis arrivée, quand j'ai créé l'association, je me suis rapprochée des psychiatres qui prennent en charge les délinquants sexuels. Et tous aussi disaient... un pédophile, un transgresseur. Il n'y avait pas de définition de le pédophile abstinent. Ce mot-là n'existait pas. Et lorsque j'ai créé donc cette antenne, voilà, moi, ma permanence d'écoute, informelle.
Alors, à la radio, ça ne passe pas très bien. Vous montrez une oreillette. Hein, voilà.
Une oreillette, oui. Voilà. Une oreillette qui ne me quitte pas depuis 20 ans. J'ai appris beaucoup.
Bon, enfin, il y a 20 ans, il y avait des Vibop, les téléphones n'étaient pas aussi sophistiqués.
Exactement. Mais j'avais une antenne, j'avais une permanence. J'ai tenu absolument à avoir une permanence électronique, puisque j'ai appris sur le tas aussi à utiliser un ordinateur. Je ne connaissais pas du tout cet outil. Mais pour attirer les pédophiles abstinents, puisque tous me disaient, si j'avais trouvé une aide, tous ceux qui sont passés à l'acte me disaient, à l'unanimité, si j'avais trouvé la même aide, la même empathie, la même écoute, je ne serais jamais passée à l'acte. Donc, à mon sens, moi qui suis une ancienne victime d'abus sexuels, pour éviter des abus sexuels auxquels j'ai été confrontée pendant plus de 8 ans, ben, il fallait écouter cette population, mais la population qui demande de l'aide.
Alors, justement...
C'est important ce que vous dites, c'est que vous ne pouvez aider que ceux qui viennent à vous. C'est-à-dire qu'il y en a quand même une grande... Enfin, il y a toute une autre majorité de ceux qui ne demandent rien et qui passent à l'action.
Ce n'est pas ceux-là qui m'intéressent. Moi, pour moi, le plus important, c'est de réduire la courbe des agressions sexuelles en apportant une aide à ceux qui demandent de l'aide.
Oui, en fait, vous êtes dans une démarche de prévention. Et donc, par définition, prévenir ceux qui sont en souffrance et qui disent, ben voilà, je tire la sonnette d'alarme parce que là, j'ai identifié mon attirance sexuelle pour...
Je l'ai ressenti.
Voilà, pour des enfants ou pour des prépubères. Et là, je viens vous demander de l'aide. Mais est-ce que vous pouvez justement redonner les trois catégories qui sont identifiées justement par votre association de pédophiles? Vous avez parlé des pédophiles abstinents. Et vous parlez également de pédophiles actifs et passifs. Quelle différence vous faites justement entre les trois ?
La question qui est posée, c'est les pédophiles actifs. On pense beaucoup que le pédophile est toujours actif, alors que les pédophiles abstinents sont majoritaires. Ceux qui ont fait le choix délibéré de ne pas toucher les enfants, de ne pas nuire, justement par amour.
Mais justement, alors, c'est cette notion qu'il faut définir de pédophile abstinent.
De pédophile abstinent, c'est celui qui ressent, qui éprouve des désirs envers les enfants, des désirs. C'est pas la signification grecque, aimer les enfants. C'est archi faux. Ça, il faut la compléter par désirer un enfant. Parce qu'on aime tous les enfants. En tout cas, la majorité des gens. On n'est pas pédophile pour autant. Mais c'est désirer les enfants qui désigne la pédophilie. C'est désirer sexuellement. Et aussi tomber amoureux. Parce qu'on n'a jamais pensé à cette définition. C'est un pédophile peut tomber amoureux, mais ne pas toucher un enfant. Et c'est justement cet amour-là qui lui permet de constituer des garde-fous. Bien sûr, moi, depuis des années, j'ai pensé au travail des sexologues. Parce qu'on a systématiquement cette fâcheuse idée ou manie d'orienter ces gens-là qui ont besoin d'aide vers les psychologues ou les psychiatres. Un psychiatre, c'est vrai qu'il peut être utile, et même indispensable, mais lorsque le pédophile est malade, parce que un psychiatre, par définition, il doit soigner. Un pédophile n'est pas malade. Par contre, il a un trouble, il a une déviance qui peut être rectifiée, qui peut être aidée, qui peut être gérée avec des psychologues formés. Je dis bien,
des sexologues
formés à cette problématique.
Dans l'association L'Ange Bleu, vous faites une différenciation entre justement les pédophiles et les pédocriminels. Vous dites que tous les pédophiles ne sont pas nécessairement des pédocriminels et que tous les pédocriminels ne sont pas également forcément des pédophiles.
Oui, tout à fait.
Dans la définition.
Oui, la définition. Ouais. Parce que tout à l'heure, on parlait des passifs. Mmh. Parce que l'abstinent, le passif et l'actif. Mmh. Le passif, c'est celui qui ressent des attirances, mmh. Mais qui ne s'autorise pas par rapport à plusieurs conditions, c'est-à-dire la police, la honte, le scandale, les sanctions. Mais s'il pouvait choisir...
Il passerait à l'acte.
Il passerait à l'acte, c'est le passif. Hein. Mmh. Donc ceux-là aussi font appel à moi, lorsqu'ils ont l'impression qu'un enfant peut être consentant, parce que c'est vrai. Il arrive dans des conditions, dans des circonstances aussi, que l'enfant ne dit rien et puis le pédophile
l'interprète comme un consentement.
Passif, oui, interprète comme. Oui, ou il se leurre. Il se leurre. Il y a aussi le leurre personnel. Se dit, puisqu'il ne dit rien, c'est qu'il est consentant.
Alors, Nadia, vous avez entendu les définitions que donne Latifa. Est-ce que vous, en tant que sexologue, ce sont des définitions qu'on vous a apportées justement quand vous avez été formée, quand vous étiez à l'école.
Alors là justement vous soulevez un lièvre parce que dans la formation, alors que ce soit d'ailleurs des sexologues ou des psychologues, les définitions que l'on a, ce sont les définitions en fait qui sont sur le terrain depuis maintenant des années et qui restent floues. Elles ne sont pas spécifiées comme justement le spécifie Latifa, ce qui fait que bon, on reste sur cette compréhension
idée reçue.
Voilà, la pédophilie est une attirance sexuelle pour les enfants ou les adolescents et ou les adolescents. Mais de là à creuser beaucoup plus, on nous dit que c'est une paraphilie, ok.
Alors paraphilie, c'est.
Alors je vais jeter le mot parce que c'est un peu ça.
Hein, avec ou sans élan.
Allez, sans élan. Ce que les gens appellent des déviances, voilà, pour que nos auditeurs comprennent. On ne va pas rentrer dans des termes techniques, c'est un peu ça. Donc, vous avez ça. À côté, une définition qui est finalement très restrictive. Et puis, toutes les idées en fait, reçues, tout l'émotionnel collectif sur ce sujet-là. Et en réalité, ça ne fait pas pour le coup de nous des thérapeutes aguerris et compétents sur la question. D'ailleurs, la majorité des thérapeutes, des sexologues ou des psychologues cliniciens également, qui souhaitent prendre en charge, accompagner des personnes justement qui souffrent de pédophilie, enfin, je fais vraiment le résumé en utilisant le terme, eh bien, on est amené à chercher à se former. Et c'est là où on découvre justement une association comme l'Ange Bleu, parce qu'il faut dire clairement, et arrêtons cette hypocrisie générale, au niveau universitaire, ça reste très intellectuel, et en réalité, concrètement sur le terrain, eh bien, beaucoup de thérapeutes s'avouent en fait complètement incompétents. Et donc, on laisse... dans la nature des gens qui sont en réelle souffrance et auxquels on ne sait pas apporter des solutions. Alors que des associations comme l'Ange Bleu apportent une méthode. Alors je pense qu'il est temps de sortir, et ça je le dis mais pour plusieurs sujets, hein, là aujourd'hui on parle de pédophilie mais ça a lieu d'être pour pas mal de sujets, il faut qu'on sorte de la sclérose académique. À un moment donné, il y a une réalité de terrain, il y a des personnes qui proposent une méthode. Il y a des résultats probants et on a des retours, des témoignages d'ailleurs que j'ai eu la chance voilà, de lire, qui m'ont été envoyés par Latifa. Faisons, on va en parler, mais il y a des pays pour qui la méthode utilisée au sein de l'association L'Ange Bleu n'est pas du tout une lubie et pratiquée et elle donne des résultats. Pour ne citer que l'Allemagne par exemple, en sachant d'ailleurs que Latifa avait déjà proposé, enfin était déjà dans la construction de cette méthode bien avant la mise en place des outils préventifs allemands.
Bien, une émission, Nadia, que vous avez décidé d'appeler Pédophilie tabou persistant ou déni collectif. On en parle avec notre invité ce matin, qui est la présidente de l'association L'Ange Bleu. C'est Latifa Benarik qui est dans À votre santé jusqu'à 10h.
À votre santé, revient dans un instant. À votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Pédophilie tabou persistant ou déni collectif, on en parle aujourd'hui avec Latifa Benari qui a fondé et qui préside l'association qui s'appelle L'Ange Bleu. Nadia Elbogaï est avec nous. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de pédophilie. Dans l'actualité récemment, c'était à l'occasion de la sortie du film de François Ozon qui relatait justement cette affaire qui n'était pas encore jugée. Et c'est vrai que souvent, l'Église est accusée. Alors, Latifa, peut-être que même vous êtes sollicitée par les autorités ecclésiastiques pour intervenir.
Oui, c'est vrai que le diocèse de Lyon, encore, on focalise beaucoup sur l'évêque qui a couvert, mais
en connaissance de cause des.
Mais vous savez, il y a énormément d'abus sexuels au sein des familles qu'on a couvert aussi. Il n'y a pas que l'Église.
C'est pas parce qu'on dit que lui il a couvert que ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs là-dessus.
Monseigneur
Barbarin, pour en parler. Bon, voilà.
Je ne suis pas en train de le défendre. C'est vrai qu'il y a une maladresse qui était d'ailleurs reconnue, aujourd'hui est reconnue, avouée par les responsables à l'époque parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, comme l'éducation nationale à l'époque, qui ne savait pas comment faire lorsque on découvre un abus sexuel infligé par un instituteur ou un éducateur et tout. C'est exactement le même esprit. Seulement, dans l'Église, on oublie qu'il y a une majorité de prêtres qui font un travail admirable. Moi, j'ai été témoin de plusieurs victimes d'abus sexuels qui ont été sauvées du suicide par des prêtres dans le confessionnel. Et beaucoup de pédophiles n'avaient pas du tout, avant d'exister, je n'ai pas la prétention de régler tous les problèmes, des pédophiles qui n'ont trouvé comme aide, comme écoute que les prêtres. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à moi pour parler de cette association. Mais ce sont les prêtres qui ont demandé à m'entendre et surtout à être formés à l'écoute. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis allée.
Tout ça pour terminer, vous savez que ce ne sont pas les trains qui arrivent à l'heure qui intéressent les journalistes.
Bravo.
Comme vous le savez.
Exactement.
On parle plutôt des trains qui arrivent en retard et c'est comme ça. Mais c'est valable, ce qu'on dit, c'est valable dans tous les milieux. Il n'y a aucun milieu qui soit épargné par le phénomène de la
pédophilie.
Exactement,
et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai donné comme titre à l'émission Tabou ou déni collectif. Parce qu'effectivement, force est de constater, très malheureusement, mais c'est la réalité, que ce sujet, en fait, soit il n'intéresse pas certains représentants religieux de toutes les confessions confondues. Bon, évidemment, je vais parler ici des musulmans et des représentants, des imams, en tout cas, donc au sein de la communauté musulmane, parce que c'est un sujet encore qui, pour certains, n'est pas un sujet, on va dire, primordial, que c'est
prioritaire
exactement,
que c'est réservé à la religion d'en face,
ou que c'est réservé, voilà, probablement à la religion d'en face, ce qui est malheureusement sur le terrain absolument pas le cas. Moi, je vois au niveau de la patientèle, donc en sexologie, il y a moult témoignages de, enfin, en tout cas, moult souffrances sur des vécus d'attouchement lorsque ces personnes étaient enfants. On a des récits, et ça, il faut le dire, et on va arrêter de se mettre
des œillères.
Des œillères, exactement, et de se boucher les oreilles également, en passant.
J'interprète vos gestes à la fois que vous les faites, parce que j'essaie d'être en phase.
Hein. Oui, tout à fait. Parce que les témoignages que j'ai, concrètement, j'ai des femmes d'un certain âge, de l'âge de ma mère, ma mère a 65 ans, qui témoignent, donc pour vous dire que c'est quelque chose qui ne date pas de maintenant, parce que c'est des arguments que j'entends, oui, mais maintenant, tout est médiatisé, on exagère.
C'est la société d'aujourd'hui.
Des femmes de la génération de ma mère qui racontent à l'époque, là je prends, c'est valable en Tunisie, en Algérie, moi je vais prendre l'exemple du Maroc que je connais, à l'époque on allait très facilement voir les tradis praticiens, le fouqaha, pour voilà, telle ou telle problématique, et le nombre de femmes que ce soit des femmes issues de l'immigration ou que ce soit des femmes au Maroc même qui témoignent d'attouchements lors de séances pratiques ou de ruqya tout simplement à la mosquée en compagnie de l'imam à un moment où la petite fille a été isolée. Mais ça, ces récits de chasse, excusez-moi le terme, on en a en pagaille. Donc c'est une réalité et c'est loin d'être anecdotique. C'est loin d'être
anecdotique. Il y a les religieux, mais il y a aussi les soignants. Enfin, voilà,
Oui, bien entendu, des enseignants, ça touche toutes les couches sociales, ça touche tout le monde. Donc c'est un sujet qu'il faut prendre au sérieux, et ne jetons pas l'opprobre uniquement sur une catégorie, parce que là, effectivement, c'est médiatisé, parce qu'il y a une problématique au sein de l'Église, et effectivement, nos amis chrétiens ont fort à faire avec ce problème, parce qu'il y a des personnes en souffrance, et qui, justement, font un travail pour dénoncer l'inactivité, le silence, le tabou et les non-dits, ce qui est une bonne chose. Mais balayons tous devant notre porte parce que c'est une problématique qui touche tout le monde.
Alors, avec toutes ces affaires qui sortent, est-ce que vous avez l'impression que cette question de la pédophilie est prise de plus en plus au sérieux ou pas du tout ?
Est-ce que je peux me permettre, justement, puisque je suis moi-même concernée quand j'étais petite, celui qui a abusé de moi, qui m'a agressée sexuellement et qui m'a menacée était un hajj. Hein. Donc on est en plein cœur du sujet et je n'ai jamais dit quoi que ce soit parce qu'il me menaçait. Et aussi, lorsque je vais passer outre, puisque c'est pas le sujet de l'émission, c'est pas moi, mais j'ai eu quand même à mon actif sur les 30 ans de terrain énormément de témoignages de victimes.
Mais aujourd'hui, Latifa, il y a 20 ans, quand on a dû faire la première émission, on n'en parlait quasiment jamais dans les médias. Ouais. Bon, aujourd'hui, on peut dire qu'il y en a. Il y en a partout dans les médias, sur les chaînes d'information, il y en a dans les magazines de psychologie. Donc, le niveau d'information n'est pas le même. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que le fait qu'on en parle, ça change quelque chose déjà dans la prise en charge de la pédophilie, et est-ce qu'on arrive à mieux traiter et définir la chose ?
On en parle où ?
On en parle partout.
Et souvent, et souvent mal. Alors, on parle.
En fait, c'est
beaucoup.
Ça le problème. C'est qu'on aiguise les émotions plutôt que d'en parler.
On focalise sur une catégorie, c'est-à-dire on a l'impression que c'est l'Occident qui est concerné. Moi, j'ai eu plusieurs fois dans des conférences des femmes, mais qui sont sincères, qui sont de bonne foi. Ah oui, mais pas chez nous. Ça se passe pas chez nous. Alors à chaque fois, je recadre la personne en lui disant pourquoi pas chez vous, parce qu'on n'en parle pas. Moi, je suis concernée. Donc des milliers sont concernés, des musulmans, des musulmanes, parce que c'est vrai qu'un garçon a beaucoup plus de mal à parler. Ben, aujourd'hui, j'ai une permanence d'écoute. J'ai beaucoup plus de femmes musulmanes qui appellent pour demander de l'aide et comprendre ce qui s'est passé que des hommes. Hein. Les hommes, c'est vrai que les Français, les Européens, les Américains m'écrivent beaucoup plus facilement. Je reviens à ce qu'elle disait Nadia, c'est que ce bâillonnement des musulmans, qui pour plusieurs raisons, on ne le dit pas, culturel, religieux et tout, ne permet pas aux victimes de sortir de l'ombre, mais surtout, ça conforte les agresseurs dans leur attitude transgresseuse.
Parce que si les victimes parlent, effectivement, il y a dépôt de plainte. Et...
C'est pas forcément pour le dépôt de plainte, parce que moi, la première victime que j'ai rencontrée, je ne lui ai pas suggéré, j'avais 15 ans. J'ai croisé une petite fille, c'est elle qui m'a propulsée sur ce terrain. Elle était victime de son père, son oncle et son frère. Je lui ai juste dit de les dénoncer, de dire ou de crier « ne fais pas comme moi », c'est ce que j'ai dit. Et ça a marché. Donc il n'y avait pas du tout de problème juridique. Et ça l'a sauvée, parce que dès qu'elle a parlé.
Alors justement, ce qui est caractéristique aussi, c'est que on est, vous avez parlé effectivement de problématiques traditionnelles, on est dans un étouffement parce qu'il y a toujours cette question d'honneur qui plane, et finalement, on demande à la victime de se taire parce que, c'est fait, passons à autre chose, il y a l'honneur de la famille à préserver. Fait. Et d'ailleurs, c'est très caractéristique, puisque, je vous rappelle, il y a quelques années, avec l'histoire du pédophile espagnol au Maroc, hein, qui avait abusé, agressé plusieurs enfants, et en plus qui avait filmé ses actes par-dessus le marché, et qui avait été gracié, hein, n'oublions pas, ça avait fait polémique. Et moi, ce qui m'avait abasourdi, c'est dans les médias, le roi du Maroc avait invité certains parents de victimes marocains, et les images dans les médias, les photos des parents étaient floutées, parce que justement, il y avait cette problématique d'honneur familial qui allait être touchée. Alors ça en dit long. Ça en dit long justement parce que, eh bien, il faut sortir. C'est une obligation, là, il n'y a même plus le choix. Il faut sortir de ces fausses idées, de ces mauvaises compréhensions. La honte, elle doit changer de côté. C'est pas envers les victimes qu'il faut jeter l'opprobre. C'est se dire, non, on est tous responsables. Et ça, c'est un message que j'envoie à tous les responsables, et religieux, et éducatifs, et au sein de la communauté musulmane, nous sommes tous responsables. Parce que j'entends souvent dans les Jumu'ah, les enfants de la communauté sont tous nos enfants. Alors s'ils sont tous nos enfants, dans ce cas-là, comme on dit en arabe, tazmo, ça veut dire, voilà, c'est-à-dire à un moment donné, ça suffit. Il faut dire et redire, parce qu'il y a des incompréhensions et il y a des interprétations aussi qui sont erronées, notamment dans l'histoire, dans notre histoire musulmane, notamment, et je jette le
pavé dans la mare.
Pavé dans la mare, exactement. Avec cette
prévenez-moi quand vous jetez des pavés, Nadia. Vous me prévenez parce que je pourrais pas vous couper au montage.
Oui, non, mais de toute façon, il n'y a pas de montage à couper parce que déjà on est en direct. Donc il n'y a pas de.
Non, mais c'est pour ça, comme je ne suis pas prévenu, allez-y.
Oui, non, c'est pour dire aussi parce que ça aussi, ça ne se dit pas parce que on dirait que tout le monde a peur de soulever ce lièvre-là. Il y a une idée aussi, parce que je vous le dis, parce que c'est un débat que j'ai eu et qui m'a complètement sidérée en tant qu'humaine et sexologue clinicienne, c'est d'entendre dire par des musulmans, donc des personnes qui ont la même confession que moi, oui, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est bien marié adulte avec une enfant.
On me le rappelle souvent.
Alors, arrêtons 5 minutes, parce que, mettez-vous au goût du jour, il y a des études qui sont pas si récentes que ça, en fait, hein, qui datent d'historiens qui, d'ailleurs, continuent encore à affiner leurs recherches, qui ont démontré que Aïcha, radiallahu anha, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne pouvait pas avoir 9 ans. Alors, moi, je ne suis pas historienne, hein, mais je vous invite, ce sont des études qui sont pour l'instant accessibles en arabe et en anglais, donc, chers frères et sœurs arabophones et anglophones, posez-vous sur cette problématique. Arrêtez d'utiliser ça comme un alibi, parce que lorsque vous n'avez pas une problématique pédophile, ça vous passe au-dessus de la tête. Mais lorsqu'une personne a cette attirance-là et qu'en plus elle utilise les textes pour cautionner sa pratique, c'est juste catastrophique. Et ce n'est pas possible.
Mais ça, vous entendez des gens qui...
Évidemment, c'est pour ça que j'en parle. Donc on ne peut plus se taire et dire que on a d'autres chats à fouetter ou que c'est un problème qui nous passe au-dessus de la tête. Non, c'est un problème.
Alors on va pas nommer le responsable religieux que vous avez interpellé, Latifa Benhari, mais vous avez interpellé un responsable musulman religieux qui vous a dit qu'il y avait d'autres chats à fouetter.
Tout à fait, il y a une semaine, même pas. Je lui ai justement soulevé ce problème de non-dit, de secret, et je lui ai dit que vous êtes le mieux à même de soulever ce problème et de lever le voile sur la maltraitance sexuelle au sein des communautés musulmanes. Il m'a dit clairement, on a d'autres chats à fouetter. Et moi, j'ai pas envie de cacher. C'est c'est un imam d'une grande mosquée.
C'est pour ça aujourd'hui, je vous.
Alors attends. Je vous dis pourquoi. Moi je suis contre qu'on donne des noms si les personnes sont pas là. C'est pour ça que j'ai dit ça. Alors là, je dis vous faites ce que vous voulez.
J'espère que il va se reconnaître. Et j'espère qu'on va faire appel à moi pour que je dise qui.
Voilà, ça je suis d'accord pour que vous le dites. Mais après, il faut que les gens soient là pour qu'on ait un débat.
Alors il y a pas que ça. Moi je suis Donc, pour le Vatican, mais non, on est en train de donner, d'ailleurs, depuis quelques temps, depuis 10 ans, puisque je suis allée faire une conférence au Luxembourg il y a 10 ans, sur le même sujet, sur les prêtres. Mais qu'on lâche un petit peu les prêtres, parce qu'il y a beaucoup de prêtres.
Ce qu'on reproche à l'Église, c'est d'avoir fermé les yeux et d'avoir étouffé les affaires lassifs. En connaissance de cause, d'avoir déplacé les prêtres. Et, vous voyez, donc, c'est un état des lieux.
C'est un état des lieux. Mais non, on ne fait plus la même chose. Mais non, on est en train de chercher des mesures pour éviter justement les erreurs du passé. Et je suis ravie.
Le titre du film d'Ozon est parlant. Je veux dire, lorsque...
Il reprend une phrase.
Grâce à Dieu, les faits sont prescrits. Pour finir
C'est une phrase de Monseigneur Barbarin.
Voilà. Et bien, moi, justement, ce « grâce à Dieu », eh bien, c'est ce qu'on retrouve chez pas mal de représentants religieux qui finalement disent « oui, bon, khair ». Alors nous, le « grâce à Dieu », c'est « khair ». Donc voilà, c'est un peu du même agabi. Oui, khair, la personne va se repentir. Ça, c'est propre à la personne. Maintenant, nous avons une responsabilité collective vis-à-vis de cette problématique. Et que ce soit les chrétiens, là on est dans le confessionnel, donc que ce soit les chrétiens, les musulmans ou les juifs également, qui ont également ces problématiques-là, il est temps maintenant que les représentants religieux prennent la parole, et des représentants religieux importants, parce que là, notamment, ce qui a été reproché au pape aussi, c'est de ne pas nommer clairement les choses.
Le pape, il a botté en touche, je ne veux pas dire, mais bon.
Donc là, maintenant, ce qu'on demande aux représentants religieux, c'est de ne plus botter en touche, c'est de ne plus couvrir. C'est pas de jeter l'opprobre, parce que ce que dit Latifa, c'est très important. On n'est pas là pour, on n'est pas au Moyen-Âge, et le but, c'est pas d'aller attaquer les gens et de les livrer.
Quand je vous fais des signes, Nadia, ça veut dire qu'il y a une pub. Je vous encourage pas à continuer. Vous avez compris ça. Pédophilie tabou, persistant ou déni collectif. On en parle ce matin avec Nadia Elbouga, notre invitée, Latifa Benhari.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Pédophilie, tabou persistant ou déni collectif, c'est le sujet aujourd'hui avec Nadia Elbouga et Latifa Benhari, la présidente de l'Ange Bleu. Merci de me faire passer des cartons. Latifa, j'avais bien compris. En termes de prévention, la France se focalise sur la récidive et rien en amont. C'est vrai qu'en France, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de prévention. Donc, qu'est-ce qui fonctionne, Latifa, en termes de prévention?
Alors, la prévention, c'est un mot vain par rapport à la réelle prévention, parce qu'il est utilisé souvent et depuis des années pour la prévention de la récidive. En clair.
Oui, donc c'est prévention de la récidive.
La récidive.
Mais c'est prévention de passage à l'acte. Au premier acte.
Ouais, le premier acte, en toute modestie, c'est un terme qui est utilisé mais qui n'existe pas, hormis l'Ange Bleu que j'ai créé il y a 20 ans et qui fait preuve de résultats extraordinaires, puisque depuis la création de l'Ange Bleu...
Ça, c'était en toute modestie, évidemment. Heureusement que vous l'avez dit avant. Parce que...
Bah oui, bien sûr.
Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous obtenez comme résultat à la TIFA?
Ah bah écoutez, contrairement à l'époque où on s'était connus, aujourd'hui, c'est multiplié par 100 le nombre de personnes qui sont en prise avec leurs attirances pédophiliques, qui sortent de l'ombre et qui me découvrent, et grâce aussi aux tribunes médiatiques, parce que souvent, les gens ignorent complètement que ma structure existe, exutoire, et que j'ai aussi des partenaires, parce qu'il faut savoir que je n'ai pas, la prétention de me substituer aux thérapeutes. Moi, je suis là comme parcelle pour aider les personnes à trouver une solution. Donc si je peux les aider à trouver cette solution ou répondre à leurs besoins, je le fais. Mais si ça nécessite une prise en charge par des psychiatres, puisqu'il y a énormément de personnes en détresse et avec des dépressions et des troubles, là c'est vrai que j'ai des partenaires, les CRIAFS. Donc les CRIAFS sont des centres de ressources d'intervenants auprès des délinquants sexuels, des intervenants qui font un travail fabuleux, avec qui je suis partenaire. D'ailleurs, c'est eux qui vont créer une structure d'écoute, un numéro vert, à partir du mois de juin, inspiré de mon travail, inspiré de ma permanence d'écoute.
Et là, vous, c'est pour la prévention du passage à l'acte.
Du premier passage à l'acte. C'est-à-dire les pédophiles qui ne trouvent pas du tout d'aide auprès des praticiens qui sont formés uniquement pour les délinquants sexuels.
Alors évidemment, quand on s'est rencontrés la première fois il y a 20 ans, c'était avant l'essor d'Internet. Donc c'est vrai qu'aussi, on peut vous joindre beaucoup plus facilement, on peut vous envoyer un mail si on veut. Mais qu'est-ce que ça a changé finalement, l'accès, notamment de la vidéo sur Internet? Est-ce que ça a modifié...
De la pédopornographie,
mais est-ce que ça a modifié le nombre de pédophiles?
Alors, il y a...
Et la forme que ça prend.
Il y a une confusion totale et une méconnaissance sur cette problématique, parce qu'il y a une catégorie de pédophiles qui sont ou passifs ou abstinents, qui vont chercher sciemment des supports, des dérivatifs pour ne pas passer à l'acte, ou des dérivatifs pour assouvir leurs désirs sur un plan virtuel, mais ils rentrent, ils s'enlisent dans un phénomène d'addiction.
Mmh. Et donc, c'est plus de l'addiction,
c'est
donc...
l'addiction mentale.
D'accord, mais aux vidéos à ce moment-là, aux films.
Aux vidéos, ben, c'est exactement comme ceux qui sont addicts aux jeux vidéo, où on voit des crimes et tout, ils ne sont pas pour autant dans la vie réelle des criminels.
Donc, vous parlez de passage à l'acte physique, parce que pour la justice, ils sont considérés comme des personnes qui sont
tout à
passées
fait,
à l'acte.
Tout à fait. Donc il y a une confusion chez les législateurs qui ont fait des lois sans comprendre ce phénomène, à savoir
que pénalement
ils sont sanctionnés de la même manière qu'un passage à l'acte, alors qu'ils sont pas du tout, enfin la majorité qui font appel à moi depuis quelques années sont addicts à la pédopornographie, mais ils sont pas du tout attirés par les enfants réels. Les enfants n'ont pas d'impact du tout sur leur mental ou sur leur désir, ils sont pas pédophiles, donc pour moi ils rentrent pas dans la catégorie des pédophiles.
D'accord.
Et ça, c'est une addiction.
Mais qui n'est pas la même.
Non. Et puis, il y a plusieurs raisons. Par exemple, le plus grand risque aujourd'hui, et je mesure mes mots, c'est l'accès ouvert de la pornographie classique légale, qui attire beaucoup d'enfants et attire beaucoup d'adolescents, mais qui impacte beaucoup leur développement psychosexuel. Puisque, après, ils cherchent des vidéos. Ou bien il y a une intrusion dans les sites pornographiques de supports pédopornographiques. Et ils captent ça, et cette curiosité malsaine les attire et les enferme, surtout lorsqu'ils sont solitaires, lorsqu'ils sont isolés, ils sont seuls, ils sont timides, ou tout simplement curieux.
Parce que les programmes sont faits de telle façon à ce que de toute façon ils vont toujours en vouloir plus. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens.
Le phénomène, c'est qu'ils sont toujours à la découverte de plus sensationnel.
Et c'est le cerveau qui est fait de cette façon-là.
Et
en
c'est
fait.
Le cercle vicieux jusqu'à ou bien ils découvrent grâce aux médias, l'association L'Ange Bleu, et je les coach, et ceux-là sont beaucoup plus facilement insérables, ou bien ils sont arrêtés par la police.
Alors Latifa, vous voulez nous parler d'un film?
Oui, alors il y a un film extraordinaire qui a été réalisé par une réalisatrice et metteur en scène israélienne. Il s'appelle Violaine, je crois. J'ai oublié son nom, pourtant on se connaît maintenant. Sur la maltraitance sexuelle au sein des communautés juives. Et ça, c'est quelque chose aussi qui ressemble un petit peu à notre communauté musulmane. C'est ultra secret, et c'est un non-dit qui est indescriptible, puisqu'on pense toujours que les juifs ne sont pas concernés. Cette réalisatrice a fait un travail fabuleux, elle a fait un documentaire qui lève le voile et qui donne un coup de pied à la fourmilière, puisqu'elle a été filmée dans la ville la plus ultra-orthodoxe en Israël, et qui va être, donc il est sur les grands écrans en ce moment en France.
Au cinéma,
Au cinéma, voilà.
Ça s'appelle donc
M.
M.
Oui, c'est-à-dire qu'elle, à travers son film, en fait, elle essaye de dégager cette chape de plomb sur...
Elle a dégagé, je ne sais pas si elle va pouvoir le diffuser en Israël. En tout cas, pour le moment, il est diffusé ici, et elle a eu... moi, j'étais invitée à l'avant-première, je suis invitée aussi à Montpellier le mois d'avril pour animer un débat avec elle, avec la réalisatrice, et je trouve très courageux, et vraiment, je la félicite pour ce travail.
Oui, donc on ne le répétera jamais assez. C'est une problématique qui touche tout le monde. À partir du moment où vous êtes humain, vous êtes concerné par cette problématique-là. Donc, en extra ou en intracommunautaire. Donc, c'est à nous tous, nous avons cette obligation, que l'on soit thérapeute, parent, éducateur, représentant politique, de prendre tout en main cette problématique de prévention.
Juste une précision, en Algérie, je suis très encouragée par le professeur Kacha, qui est psychiatre, et qui avoue justement avoir des lacunes, des méconnaissances sur cette problématique, alors qu'il est confronté souvent aux victimes d'abus sexuels. Il y a aussi au Maroc Nezha Srelli et plusieurs, d'ailleurs le professeur Moussaoui, qui souhaiteraient justement développer mon approche au Maroc. Donc voilà, il y a quand même des choses qui bougent à ce niveau, politique et médical.
Alors pour tous ceux qui voudraient rentrer en contact avec l'Ange Bleu, Latifa, comment on fait ?
Alors il y a le site qui me permet de répondre
ange-bleu.com voilà.
www.ange-bleu.com voilà. Ou bien le téléphone, ben, il est sur le site justement.
Et donc il y a un accueil téléphonique pour ceux qui veulent parler, c'est ça ?
Tout à fait, et je suis en train de former des relais et je suis en train aussi probablement former les écoutants de ce numéro vert qui va être ouvert à partir de juin.
Latifa Benari, présidente de l'Ange Bleu, merci d'avoir été avec nous ce matin. Nadia, merci d'avoir été avec nous. On vous rend au Toulousain ?
Oui, tout à fait.
Ou vous ne voulez plus y aller, ou vous restez avec nous ?
Si, bien sûr, bien sûr.
Et on vous retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Très belle journée sur Beurre FM.
Retrouvez à votre santé tous les samedis de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.